Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est une opération spéciale puisque nous sommes en direct pour Débat IMO. On a choisi de délocaliser l'émission ici à l'Hippodrome de Longchamp pour la 6e édition de la rencontre des entreprises de France organisée par le MEDEF. Débat IMO, une émission qui déconstruit aussi les idées reçues et qui vous donne un petit peu un aperçu de comment on peut aborder la question du logement, de l'immobilier dans sa globalité, avec un regard différent. C'est une émission produite et coproduite avec le réseau WeInvest et en l'occurrence avec un éditorialiste qui est d'ailleurs le directeur général de WeInvest France qui est avec moi, c'est Xavier Bellevaux. Bonjour.
Salut Sylvain.
Comment ça va Xavier?
Ça va très bien, je rentre de vacances.
Voilà, merci d'être avec nous. Alors on a une habitude avec Xavier, c'est que tu me tutoies et je te tutoie.
Exactement. Voilà. Alors, bah, je tutoie tout le monde, donc c'est un peu difficile.
Alors normalement, sur les émissions, on a comme ça les trucs. Donc comme quoi, on veut toujours déconstruire les idées. Et c'est bien le principe de l'émission. Deux invités de marque sont avec nous sur le plateau. Elle était avec nous hier. Elle a partagé la première journée de la REF hier à Longchamp. C'est Daniel Dubrac.
Bonjour.
Comment ça va, Daniel?
Très bien.
Voilà, belle actualité. D'ailleurs, ce matin à 11h, vous avez signé la convention de renouvellement avec la garantie Visale.
Absolument. Et puis, louer pour l'emploi, pour les bailleurs.
Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, une garantie qui a aidé plus d'un million de jeunes, de locataires. Un vrai, vrai succès organisé et géré. Une idée de Action Logement, du groupe Action Logement, dont vous êtes le partenaire. Vous êtes également la présidente de l'UNIS. Vous êtes l'un des leaders politiques de la profession. Et donc, on va vous poser un certain nombre de questions, notamment sur la façon d'aborder les innovations, mais aussi le marché immobilier dans sa globalité. Dans le lab que nous avons dans Débat IMO, vous le savez maintenant, c'est le troisième opus, nous avons toujours une mise à l'honneur d'une personnalité marquante, d'une innovation ou par exemple d'un projet. Et là, en l'occurrence, c'est une entreprise qui a été cofondée par Thomas Reynaud qui est avec nous sur le plateau. Salut Thomas.
Bonjour.
Comment ça va Thomas?
Comme Xavier, je reviens de vacances, donc tout va bien.
Voilà, tout va bien.
Ça se voit un peu sur le visage.
Oui, tout à fait. Voilà, le cofondateur de GarantMe, vous nous en parlerez tout à l'heure, une très belle initiative. Ça fait maintenant quoi, 6 ans, 7 ans?
7 ans au mois d'octobre.
Voilà.
On y est bientôt.
Tout début, ça a commencé par les étudiants étrangers et ça a évolué avec le temps, avec un nouveau modèle. Vous nous en parlerez aussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Voilà, le haut menu de cette émission. Nous avons bien évidemment les sujets que vous aimez, puisqu'on va commenter l'actualité avec l'édito très attendu de Xavier Bellevaux dans quelques instants. Voilà le sommaire de l'émission pour cette rentrée qui va inaugurer finalement la rentrée immobilière en ce début de septembre 2024. Débat IMO, c'est votre émission, troisième numéro. C'est tout de suite après ça. Alors, justement, on va parler de Débat IMO sur les idées que l'on se fait, peut-être de la profession. Le jingle de l'édito, c'est à vous, Xavier.
Merci Sylvain. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler immobilier, parce qu'on se retrouve à l'Hippodrome de Longchamp. Et il faut savoir que j'ai eu une carrière comme jockey, j'étais jockey d'entraînement.
Non.
Et oui, j'ai fait pas mal de petites choses. Et j'attelle le pur sang arabe. Voilà. Depuis maintenant une quinzaine d'années.
Et vous avez couru ici?
Non, je n'ai pas couru ici.
Ah d'accord.
J'ai jockey d'entraînement, donc je ne suis pas allé jusqu'à là, mais je suis souvent venu justement pour des tiers. Et c'est vrai que, pour une fois, j'ai envie de parler plutôt de choses que l'équitation peut apporter en 3-4 minutes assez rapidement. En tout cas, chez moi, il y a une première chose qu'on peut comprendre, c'est que la passion, peu importe ce qu'on fait dans la vie, et notamment quand on se tourne vers l'équitation, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas passionné, parce que tu as une régularité à avoir avec ton cheval, avec tes obligations de sortie, tes entraînements, qui sont assez dignes de grands sportifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le calme. Alors, si certains me connaissent, je ne suis pas forcément d'un tempérament des plus calmes, je suis plutôt un peu hyperactif. Mine de rien, grâce à l'équitation, c'est des choses qui te permettent de te calmer, de gagner du temps, de te rassurer. Et puis, tu comprends aussi quelque chose, c'est que tu n'auras pas raison. Si à un moment, ton cheval a décidé qu'il n'avait pas envie, au bout du compte, c'est toi qui vas être obligé de mesurer et d'arrêter un peu l'exercice et de pouvoir un peu apprendre à savoir par moment faire quelques pauses. La persévérance, du coup, le compromis, parce que ça va avec. Hein, et puis dans notre métier, le compromis et la persévérance, je pense que Daniel en parlera et Thomas et surtout vous êtes des entrepreneurs au quotidien, donc vous le voyez bien. Et puis, la régularité. Voilà. Et le renforcement à la fois musculaire, mais surtout le renforcement moral, c'est-à-dire que l'échec, parce qu'on fait des courses, on fait des compètes, on ne gagne pas tout le temps, mais à chaque fois, il faut se dire, attends, relève-toi, remotive-toi. Et je trouve que depuis quelques temps, et notamment depuis le Covid, c'est un peu ce qu'on traverse en France dans l'immobilier, si on fait un parallèle. On voit bien qu'on était monté à plus d'un million de ventes en transactions, qu'on est redescendu. Aujourd'hui, on parle de 800 820 000 à la fin septembre, tu nous en diras plus, Daniel. Et tu as, je crois qu'il y a quelques jours, tu as mis un post assez intéressant sur les demandes de cartes pro, les évolutions de demandes de cartes pro. Ça aussi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce sujet-là. Et tout ça pour dire qu'en réalité, on voit bien qu'il y a des entreprises qui souffrent, qui ferment dans l'immobilier, mais pour autant qu'on s'accroche et qu'on a vraiment besoin que les pouvoirs publics se réveillent. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Confiance en soi et régularité sont aussi des marques importantes. Moi, je voudrais utiliser une formule qu'un grand philosophe utilise, faiblir n'est pas une option. Voilà.
Alors, ce n'est pas faiblir, c'est reculer.
Voilà, reculer n'est pas une option. C'est Xavier Bergaud, le célèbre...
Et je ne suis pas philosophe. Hein.
Le célèbre philosophe. Pour conclure sur ton édito, j'aimerais bien... merci pour cet édito, parce que je trouve que c'est bien de mettre de l'humain, justement, des idées, une vision un peu holistique du métier pour que les gens comprennent. Parce qu'en ce moment, on n'est pas franchement à la noce dans l'industrie immobilière. On en parlait hier avec Daniel, on va revoir les chiffres effectivement. On a quand même une faiblesse en termes de cartes professionnelles. On a plusieurs milliers d'agents mandataires qui ont arrêté leur activité parce que tout simplement ça ne marche plus. On a des agences immobilières, plus de 1000 agences immobilières ont déjà fermé le rideau. Et je ne vous parle pas des promoteurs qui ont aujourd'hui de grosses
difficultés. Et on a aussi quelque chose de nouveau, c'est qu'on a une baisse significative également des agents commerciaux. Les inscriptions des agents commerciaux au registre de l'ERSAC. Ouais. Ça aussi, c'est aussi significatif. C'est-à-dire qu'au moment où on dit tous on a envie de liberté, depuis le Covid, on veut être entrepreneur, etc., on sent quand même qu'il y a une tendance qui est un peu en train de s'inverser. Et ça, j'aimerais bien voir, en tout cas, l'avis de Daniel à ce sujet-là.
En tout cas, c'est bien le sujet, c'est comment on restaure la confiance, comment on trouve une idée, finalement, au milieu de tous ces modèles pour trouver, finalement, ce que tu disais d'ailleurs très justement, le meilleur compromis, sans opposition, pour que nous ayons tous la même direction. Je rappelle qu'on travaille pour le logement des Français. C'est quand même hyper important, parce qu'in fine, ce sont des hommes et des femmes qui vivent à l'intérieur des immeubles, des appartements que nous vendons. Et donc, on a tous, à cet égard, me semble-t-il, une responsabilité globale. Merci pour tout cela. Le débat avec nos invités, c'est tout de suite. Daniel Dubrac, on en a parlé hier. C'est vrai que les chiffres, ils sont têtus, hein, ils sont pas bons, faut dire la vérité, ils sont pas très bons. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu en perspective les chiffres. Tout à l'heure, Xavier parlait du volume de transactions. On est environ là, à peu près, on parle de 800 000 transactions, 820 000 transactions. Moi, je me rappelle qu'en 2016, on avait atteint 830 000 transactions et qu'on se disait que c'était un excellent chiffre. Quelle est la période finalement la plus normale? Est-ce que c'est celle où on fait 1 200 000 transactions? Ou est-ce que c'est celle qui finalement a une moyenne entre 850 000 et 900 000 transactions? On a du mal finalement à se dire qu'est-ce qui était finalement porteur d'un marché haussier qui a été porté pendant plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être l'occasion d'avoir une réflexion différente sur l'analyse de ce qui nous touche depuis 18 mois maintenant?
Il y a plusieurs chiffres. Hein. Évidemment, le nombre de transactions, c'est un indicateur important. Donc c'est vrai que 900 000 transactions peut-être d'ici la fin de l'année. Il y a aussi le montant de la transaction. Et donc du coup, le chiffre d'affaires de nos professionnels de l'immobilier, ça aussi, il faut regarder. Parce que comme les logements en matière de surface ont quand même diminué depuis des années, évidemment, la transaction est peut-être moins forte en volume.
En volume.
Ça, il faut regarder ça. Puis après, c'est vrai que si on regarde les professionnels, le marché des professionnels en tant que tel... Et la création de cartes, la résiliation de cartes, la fermeture d'agences et le nombre d'agents commerciaux, essentiellement les agents commerciaux ont baissé de 8 500 personnes. On était à 80 000 en 2022, on a 8 600 de moins cette année.
Donc c'est 10% des effectifs qui ont...
Oui, et donc c'est important de regarder pourquoi. Est-ce que c'est des gens qui ont quitté le secteur? Est-ce que ce sont des gens qui se sont reconvertis dans autre chose? Est-ce que c'est parce que justement le marché ne va pas bien, qu'il n'y a pas assez de turnover?
Les années précédentes, c'était en hausse.
C'était en hausse. Pendant le Covid, c'était aussi en hausse.
D'accord.
Parce qu'il y avait peut-être aussi un besoin de changer, il y avait un besoin d'aller plus loin, d'aller à la campagne, Mais globalement, et puis il y a peut-être la population quand même qui grossit. Donc normalement, il devrait y avoir plus de transactions. Oui. Mais l'acquisition d'un logement, les primo-accédants sont quand même moins nombreux. D'abord, la surface est plus petite, la rotation est plus longue et les primo-accédants sont moins nombreux malgré le desserrement des crédits de l'immobilier qui montent aujourd'hui.
Donc, moi, je pense qu'il y a, Sylvain, il y a, en tout cas, et Daniel, il y a un petit sujet sur les agents co, c'est que jusqu'en 2022, dans les réseaux de mandataires, on avait beaucoup de reconversions professionnelles. Et c'est aussi ça qui, depuis une dizaine d'années, avait aussi boosté les réseaux. Or, aujourd'hui, on a quand même, on le voit bien, hein, au bout d'un an, on a à peu près 50% de mandataires, il faut avoir 60% de mandataires qui arrêtent. Et il y a une vraie cause à effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense bien, depuis le début de l'année, on en parlait il n'y a pas longtemps, on s'aperçoit que dans les réseaux de mandataires aujourd'hui, il y a un nouveau profil qu'il n'y avait pas avant. Le conseiller immobilier en agence classique, il y en a de plus en plus qui arrêtent leur activité pour devenir mandataire. Ils arrivent déjà avec des compromis en cours.
Je veux dire que le négociateur traditionnel de l'agence devient mandataire.
Oui. Et parallèlement à ça, comme je pense aujourd'hui, celui qui est en reconversion professionnelle, bah, au départ, il perçoit l'aide au retour à l'emploi, l'ARS, pendant à peu près 12 mois. Au bout des 12 mois, il s'aperçoit qu'il a peut-être réalisé entre 20 et 30, parce qu'on sait que la moyenne est à 33 000 euros de chiffre d'affaires. Bah, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Je ne peux plus, il faut que je retourne sur mon ancienne activité. Et je pense qu'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons qu'on a sur cette baisse d'immatriculation au niveau de l'ARSAC, on le sent bien, et nous-mêmes, on le voit bien, là, je fais rarement ça, mais chez WeVest, nos demandes, on a beaucoup plus de demandes de conseillers immobiliers en place que de gens en reconversion. On n'a pratiquement aucune demande de personnes en reconversion immobilière aujourd'hui.
Il y a peut-être des gens qui étaient salariés, il y a un changement de statut aussi entre salarié et le travailleur indépendant, le salarié qui peut-être s'en va parce que son agence ferme, ou bien alors
Est-ce que la motivation, c'est aussi de gagner peut-être plus d'argent en disant j'ai l'expérience, j'étais salarié, est-ce que je vais gagner
plus d'argent ? Oui, aussi, la meilleure connaissance du marché au niveau d'un quartier, et puis une forme d'organisation du travail aussi. Il ne faut pas l'oublier, le télétravail, tout ça, la façon de consommer, la façon d'habiter, tout ça, ça change. Donc forcément, le statut du travailleur indépendant par rapport au statut du salarié, c'est une vraie question dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent.
Il y a celle-ci, puis il y a un autre sujet. On le voyait bien, jusqu'à fin juillet, on a les banques qui avaient décéléré. On voyait bien, on voit encore, je me rappelle, la Caisse d'épargne avait baissé de 0,10. On devait rebaisser encore de 0,10 fin juillet. Il s'est arrivé le fait que on n'a plus de Premier ministre et que c'est compliqué, etc.
Et là, on voit que tout s'est mis à l'arrêt.
Voilà, et on voit qu'on est à l'arrêt depuis 41 jours.
Sur lequel d'ailleurs vous étiez, tout est à l'arrêt aujourd'hui. Les députés sur lesquels vous comptiez qui n'ont pas été réélus.
Oui, et puis les dispositifs. Dispositifs, alors évidemment, il y a toujours les queues de dispositifs, mais Pinel, etc., il n'y a plus d'aide. Donc l'investisseur immobilier, il se tourne. On dit qu'actuellement, l'or est un refuge. Alors, d'habitude, c'est la pierre.
Vous avez vu,
en ce moment, c'est l'or. C'est incroyable.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, hier, j'allumais la télé et j'ai vu une pub sur le placement or. J'avais jamais vu ça. Enfin, j'ai pas si ça. Moi, ça m'a vachement surpris. Vous voulez réagir, Thomas Reynaud ?
Oui, vous me permettrez un petit parallèle. Je sais pas s'il est pertinent, mais il y a aussi un ralentissement sur le marché de l'investissement dans les startups, qui est lié.
Ah oui, clair. Ah oui.
Qui est lié parce que la hausse des taux a rendu certains autres placements plus attractifs que celui en startup qui était risqué. Et alors là, je sais pas si les conclusions que je tire vont vous plaire, mais ce qu'on voit sur ce marché de l'investissement, c'est que une fois que l'investissement ralentit, restent en place les acteurs qui ont réussi à développer leur activité jusqu'à un seuil suffisant et qui ont un vrai modèle économique robuste. Et ce qu'on voit, nous, du coup, chez nos agences immobilières partenaires, c'est qu'on peut avoir des agences qui sont plus fortes parce qu'elles ont atteint un certain seuil et qui sont aussi plus pérennes parce qu'elles ont diversifié leur activité par opposition à d'autres qui n'ont pas encore eu le temps de le faire et qui disparaissent. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aussi dans notre environnement de l'innovation.
Alors, c'est vrai qu'il y avait il y a eu un mercato, on peut le dire, pas toujours très réaliste dans l'investissement sur les startups et notamment celle de la tech. J'en sais quelque chose, tu le sais, hein, parce que je suis vice-président de French PropTech France. C'est simple, on est passé d'un gap de 100 à quasiment 10, c'est-à-dire une baisse hyper drastique, parce qu'effectivement, on avait assisté finalement à une surenchère de fonds d'investissement. On ne va pas dire qu'ils ont fait n'importe quoi, mais il y a parfois eu des managers. Je ne vais pas revenir sur le cas de... alors, il y a les agences de papa qui ont été une machine à incinérer des fonds propres, ou par exemple le cas de Mastéos, qui a quand même consommé plus de 60 millions d'euros de levée. Mais à l'inverse, il y a des entreprises comme la tienne qui sont plus que pérennes, puisque toi, à une époque, tu as changé ton modèle économique pour te réadapter. C'est-à-dire que tu as su aussi rétro-agir pour adapter ton nouveau modèle. Tu as démarré avec les expats et tu as évolué vers un autre modèle. Mais ça, ça demande aussi une ingénierie, une agilité que n'avaient pas forcément les jeunes start-upers.
Ça dit à quel point aussi l'immobilier est quelque chose qui se construit sur le temps long.
C'est clair.
Vous avez cité des exemples qui sont des entreprises qui ont voulu aller très très vite et franchir des étapes peut-être trop rapidement. Alors que c'est un métier qui s'apprend et qui se développe. Et en revanche, ce qui peut être inquiétant, c'est que si on arrête de financer l'innovation dans ce secteur, on va le pénaliser à long terme, alors qu'il est actuellement en difficulté à court terme. Or, c'est un secteur qui a besoin d'évoluer.
Et d'innovation. Disons que là, en termes d'allocation d'actifs, sur les 15 dernières années, on voit bien qu'il y a une évolution exponentielle des valeurs locatives, des valeurs foncières et de toutes les actifs confondus. On voit bien qu'il y a une évolution là-dessus. Donc forcément, ça a attiré les appétences des fonds d'investissement, peut-être un peu trop rapide. Je me rappelle quand tu as lancé ta boîte, je crois que c'était en
2017.
C'était en 2017. Je crois qu'on était dans un congrès, ou je pense que c'est pas dans un congrès. Tu te rappelles toutes les startups qui étaient à côté?
Oui.
Voilà. Beaucoup. Les deux tiers ont disparu.
Les trois quarts.
Ah oui. Non, mais ça dit tout dans le développement avec cette surenchère. Il y avait aussi les gros éditeurs de logiciels qui aussi ont fait main basse sur des gros opérateurs ou sur certains opérateurs. Je prends par exemple le rachat de Quelfoncier notamment ou d'autres entreprises qui avaient quand même aussi marqué le point. Ça dit aussi le rôle des syndicats dans l'émergence de l'innovation et dans la favorisation de ces initiatives. C'est vrai que l'UNIS a été très avant-gardiste sur justement le regard posé sur l'émulation, l'innovation, toutes ces startups que vous avez accompagnées. Vous, aujourd'hui, vous êtes un leader syndical, une leader syndicale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à la faveur de cette crise, l'occasion de se pencher sur comment on pourrait regrouper les forces en présence pour parler à un exécutif, pour parler à des autorités de façon plus cohérente? Alors, vous avez souscrit l'Alliance pour le logement avec les plus grandes organisations patronales. Est-ce qu'il n'y a pas là, encore une fois, quelque chose qui serait encore à creuser, à trouver, une voie qui réconcilierait les mandataires, les agents immobiliers, tous ces modèles hybrides qui, parfois, ont la vie dure avec des clichés qui vivent tous les jours, on le voit.
C'est pour ça que c'est important de regarder l'innovation. Nous, dans notre syndicat, on a une commission innovation depuis au moins une dizaine d'années. On a favorisé certaines start-up à l'occasion de trophées ou quand il y a le salon RINT. On est aussi associé à la French Tech. Donc ça, c'est important parce que ces innovations sont au-delà des outils, sont aussi importantes pour regarder les modèles économiques, pour regarder la transformation des modèles, regarder comment les consommateurs consomment, comment est-ce qu'ils habitent différemment. Comment est-ce qu'ils utilisent des outils différemment? Et donc ça, c'est quelque chose au niveau de nos syndicats où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et ça a pu faire monter des startups ainsi. Après, on regarde les modèles économiques et très rapidement, il y a plus de 10 ans aussi, nous avons fait rentrer les mandataires dans notre syndicat, ce qui était par rapport, je dirais, aux agences traditionnelles un peu curieux, un peu atypique et puis un peu angoissant.
Ah, je vous trouve très, très consensuel là sur le groupe.
C'est exactement ça.
Ça a été un tsunami à l'époque. Vous avez été... on vous a... alors, moi, je peux le dire parce que je suis journaliste, donc on vous a accusé de tous les maux. On vous a brocardé comme on a pu.
Ils n'y croyaient pas.
Personne n'y croyait. Et quand on voit 10 ans après, franchement...
Et puis surtout le chiffre d'affaires, le pourcentage... La prise en main de ces nouveaux acteurs, ces nouveaux modèles économiques, en tout cas.
Est-ce que vous avez créé un nouveau collège pour eux, en fait? C'est un nouveau collège que vous avez
On a
créé
un collège, oui, des mandataires. Voilà. Et on a aussi un collège des agences indépendantes, des réseaux d'agences indépendantes. Bon. Et en plus, depuis quelque temps, il y a effectivement le modèle hybride. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a à la fois un certain nombre de services associés à ces professionnels. Puis à la fois, il y a des modèles qui cohabitent. Alors bien sûr, il y a tout le respect de la réglementation qu'il faut absolument faire, sinon il y aurait de la distorsion de concurrence. Mais c'est quand même intéressant. Et nous, on regarde ça avec beaucoup de bonheur. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte au départ? Ce qui compte, c'est quand même le service aux clients. C'est qu'il y ait des gens qui puissent se loger, des locataires qui puissent trouver des logements, des acquéreurs qui puissent avoir le logement idéal. Et donc, le professionnel, c'est mettre au centre de la table le professionnel, son expertise, sa connaissance du terrain pour pouvoir faire la bonne transaction. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, ça valorise quand même le métier d'immobilier. Alors, beaucoup n'y croyaient pas en disant, mon Dieu, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas bons, ils sont bouchés.
Oui, oui, oui.
Je me rappelle d'une interview à Radio Immo.
Mais il y en a même certains qui
un gros réseau me disait, mais tu te rends compte qu'ils sont bouchés.
Oui, mais Daniel, Sylvain, on a eu la même chose avec les taxis et l'Uber. On disait, voilà, l'Uber, ce n'était pas des professionnels, etc. Je pense qu'au-delà de ça, ce qui est très intéressant à l'UNIS pour avoir souscrit, c'est que vous avez l'hybridité. C'est-à-dire que vous acceptez à la fois les mandataires et les agences, ce qui n'était pas le cas des autres réseaux. Quand vous allez voir en fait, les autres syndicats, ils vous disent clairement, non, aujourd'hui, les mandataires, on n'en veut pas. Mais force de constater qu'en moins de 15 ans, les parts de marché aujourd'hui détenues sont détenues par les mandataires et non plus par les réseaux. Donc ça veut bien dire qu'il y a une communication.
C'est pas IAD qui fait 55 000 transactions environ eux-mêmes.
Oui, bah oui. Gros.
Mais Sylvain, ce qui est important, c'est qu'on voit, ça veut dire qu'au-delà de ça, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est le client final qui a changé. C'est le comportement du client final qui aujourd'hui veut aller plus vite, veut un accompagnement qui est différent, a des honoraires qui sont maîtrisés.
Mais tu sais que tu es l'un des rares à aborder le sujet de sous cet angle-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, ce n'est pas venu par une tension du marché. C'est venu par un choix des consommateurs. Mais c'est important.
Il y a ça, mais il y a autre chose. Tout à l'heure, tu parlais dans le cadre du développement de ta structure. Avant tout, c'est aussi des choix d'entrepreneurs. Et un entrepreneur, quand il fait des choix, il a besoin d'être bien accompagné, à la fois par ses avocats, ses conseils, par ses experts comptables, mais aussi par ses syndicats. Et dans l'immobilier, ce qui nous représente, c'est nos syndicats. Si aujourd'hui, nos syndicats n'ont pas, en tout cas, le courage d'ouvrir à large spectre leur façon de penser, de faire apporter de l'innovation, de faire aussi apporter de la contestation, ça ne pourra jamais fonctionner. On sera paralysé et on se retrouve avec des agents immobiliers depuis 25 ans à qui on dit « Vous ne devez pas faire que de la transaction parce que vous allez mourir. » Et au bout de la quatrième crise qui n'a jamais été aussi forte, on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne font que de la transaction sont à risque. Comme la location, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui est à l'arrêt, est quand même semi à l'arrêt sur plein de sujets parce qu'on a beaucoup moins de dédites et que la gestion locative est beaucoup moins forte qu'à une époque, eh bien on doit encore, dans l'immobilier, aller chercher de nouveaux métiers. On voit bien, regardez les courtiers en financement.
Nouveaux métiers, mais nouveaux services.
Ah, mais
il faut apporter
aligné.
Une plus-value. Nous sommes dans un secteur de services. Et donc, il faut apporter... Le consommateur, il est renseigné. Hein, il tape sur Google, il a 50 000 renseignements. C'est pas forcément lire toute la réglementation. Donc, le conseiller immobilier, le gestionnaire locatif, le syndic de copropriété, il va lui apporter une valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer au niveau de nos syndicats. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit aux professionnels, syndiquez-vous. Merci Xavier, parce que tu as adhéré au syndicat grâce à Radio Immo, entre autres. Je suis à côté de partenaires entre les uns et les autres. Mais il faut faire avancer et observer le terrain, observer effectivement le consommateur qui change. Ses besoins sont pas les mêmes. La qualité de vie, la condition de vie, la qualité de vie autour d'un logement, c'est important. Tout ça, il faut regarder ce qui se passe sur les territoires. C'est pour ça que je crois beaucoup, je regarde aussi sur la décentralisation, qu'est-ce qui va se passer.
Et puis les volumes, parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple de Paris, de Bordeaux, de Strasbourg, ce que tu veux, mais il ne faut pas oublier, va dans le 0,2 dans l'un. Pour faire le même chiffre d'affaires, une agence immobilière, il va falloir qu'elle fasse 2,5 fois plus de compromis, parce que le panier moyen d'honoraires va être à 4-5 000 quand il est à 8-9 000 ailleurs. Donc il y a un moment aussi, il y a aussi toutes ces choses-là à voir. Et forcément, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Non. Et je pense qu'aujourd'hui, pour terminer là-dessus, plus que jamais, on a besoin d'entre guillemets d'ouvrir nos chakras, d'avoir des syndicats qui, comme l'UNIS aujourd'hui, s'est ouvert. Il faudrait que les autres syndicats soient plus ouverts pour faire en sorte qu'on ait face à l'État des syndicats qui soient plus puissants. Parce que quand on parle d'une voix, on parle toujours de manière beaucoup plus cohérente et forte que quand on est désunis. Et c'est pareil dans tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est important.
J'aime les propos.
Justement,
l'intérêt général fait qu'il faut peser. Il faut peser. Quand on fait du lobbying, il faut peser, il faut être nombreux. Il faut peser. Pour peser, il faut se rassembler.
Et avoir une pensée commune.
On a des convergences de points de vue sur plein de sujets, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire une cause commune et un sujet commun. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans l'Alliance pour le logement, parce que là, au-delà des lois Hoguet, on va dire, c'est toute la filière qui est en cause.
Et tu as adhéré d'ailleurs, donc Oui Invest France a adhéré à l'UNIS. Mm-hmm. Pour quelle raison, du coup? Alors, j'ai eu l'occasion de vous présenter tous les deux, bien évidemment, mais c'est toi qui a fait le choix de devenir adhérent syndical. C'est quoi? Est-ce que tu t'es dit, Xavier, pour être plus clair, Je rappelle quand même que tu es un professionnel de l'immobilier de longue date, que tu as dirigé le premier réseau d'agences immobilières en France. Est-ce que tu te dis, je ne peux pas ne pas adhérer à un syndicat parce qu'il faut que la corporation se batte, il faut qu'on ait une défense des intérêts professionnels, ce qui s'entend très bien, c'est l'objectif du MEDEF et de toutes les branches adhérentes au MEDEF.
Premièrement, je pense que seul, on va nulle part. Donc, à partir du moment où, à un moment, tu es entouré, ça te permet d'être plus puissant et de pouvoir avoir des réponses à des questions et d'aller plus vite. Le deuxième sujet, c'était très rapide. On est un réseau hybride, d'un côté d'agences immobilières classiques qui collaborent avec des mandataires. Ce système d'un fichier commun et un fichier commun qui n'est pas rémunéré. Parce que ça aussi, c'est un sujet où je pense que c'est d'avant-garde. C'est terminé d'avoir des fichiers communs qui sont rémunérés. Tout le monde doit pouvoir travailler gratuitement avec tout le monde au profit du client, comme on le fait dans le retail. Dans le professionnel, on le fait depuis 40 ans. Ça s'est toujours bien passé. Et après, c'est une question de rencontre. J'ai rencontré Daniel. Je trouvais que c'était une femme qui était claire, qui avait une vision claire. Tu avais aussi un rôle à la CCI, etc., dans le 93, sur des sujets aussi qui me touchent beaucoup. Et je me suis dit, là, j'ai envie d'y aller parce qu'on sent qu'on est dans quelque chose de sérieux, structuré, qui a envie, qui ne va pas faire de la politique pour faire de la politique. J'ai pas le sentiment que l'UNIS cherche à faire de la politique. Il cherche à être dans le collectif, à avancer, par moments justement, à peut-être accepter de faire un pas en avant en disant « c'est pas tout à fait nos valeurs, mais si ça fait avancer le groupe, on doit y aller ». Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai voulu rejoindre aujourd'hui l'UNIS et rien d'autre.
Voilà. On se retrouve.
Vous avez un porte-parole, là,
on
Daniel.
On se retrouve dans ces observations très pertinentes. C'est l'intérêt général. C'est évidemment la défense de la profession, puisque c'est quand même pour ça qu'il y a des syndicats professionnels. Mais c'est aussi le modèle économique. Il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas des entreprises de bienfaisance ou de charité. Nous devons faire du chiffre d'affaires.
Mais bien sûr.
Nous devons nous développer. Donc, nous devons innover. Et donc, c'est important de regarder tous les modèles. Il y a des modèles qui fonctionnent très bien, qui sont peut-être adaptés à certains territoires et pas à d'autres. Donc, c'est important. L'innovation, c'est ce qui fait, c'est ce qui va créer de la richesse et de la valeur, de toute façon.
Dernière question pour cette partie. Merci pour un débat très clair sur la position. On va imaginer que notre cher président Emmanuel Macron viennent, lui prennent l'idée de nommer un nouveau gouvernement. Ça serait bien quand même, hein, depuis quelques semaines. C'est quand même une situation absolument incroyable qu'on ait un président de la République, au mépris de toutes les règles de la Constitution, n'ait pas déjà nommé un gouvernement. Bon, bref, ceci mis à part. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure Sandrine Rousseau qui est venue sur le plateau pour l'exprimer. Et c'est intéressant parce que finalement, on peut débattre avec des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes positions dans la bienveillance. Sans forcément tomber dans des poncifs ou des clichés. Et il est vrai, et je pense qu'elle a raison, la place des femmes n'est pas assez développée dans les enjeux du pouvoir et dans les allées du pouvoir. Et je sais que Daniel en sait quelque chose. C'est aussi un enjeu important. Qu'est-ce que vous feriez passer comme message avec un nouvel exécutif? Alors, je rappelle quand même qu'il n'y a plus d'aide aujourd'hui à la pierre. Il n'y a plus d'aide à la pierre, plus de Pinel. C'est la première fois depuis 40 ans qu'il n'y a pas de dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif. Je ne me trompe pas, je crois qu'il reste du bénéfice foncier, le déficit foncier.
Il y a les queues de
voilà.
Programmes.
Voilà, il y a quelques queues de programmes pendant 4 mois. Il y a encore le Malraux qui a résisté. Voilà, et tous les restes.
Sylvain, pour ma part, c'est assez rapide. La priorité, c'est le primo-accédant. Oui. Parce que le primo-accédant, il est lié à plein de choses.
Mais qu'est-ce qu'on fait
jusqu'à présent, le primo-accédant, il avait la possibilité d'acheter son bien neuf. Parce qu'il y avait des subventions entre le prêt à taux zéro, les aides qui étaient présentes. Et ça permettait aux constructeurs, c'est bien, une fois qu'ils étaient livrés, de pouvoir les recommercialiser en gestion, en syndic, et de pouvoir aussi, derrière, faire que l'agent immobilier traditionnel puisse les revendre. Aujourd'hui, on manque de création de biens, qu'on arrête de nous dire des bêtises. On manque de logements sociaux, on manque de logements dans tous les sens.
Ah oui,
sujet qu'on n'avait pas pris en compte.
Oui.
Les divorces depuis 20 ans ont augmenté comme pas possible. Combien on a de parents isolés qui se retrouvent avec des enfants? On n'a plus d'F3 dans la construction, on est en train de dire on va couper des F4 en deux, mais ça ne résout pas le problème. Et en plus, on a un parc qui est de plus en plus vétuste. Donc la priorité, en tout cas, pour moi, sur cela, ça serait vraiment...
Les primo-accédents. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux, alors?
Eh ben, de remettre des subventions.
Alors,
on parlait il n'y a pas longtemps.
Il existe
supprimer
toujours.
Les droits de mutation à titre onéreux pour les primo-accédants. Une des 10 propositions d'UNIS.
Ça, c'est très bien, parce qu'en plus, elle avait été resuivie il y a peu de temps.
Qui sont d'ailleurs pas très élevés, les droits. Alors, droits de mutation dans l'ancien ou dans le neuf? Ou les deux?
Les deux.
Dans les deux.
Il faut le faire jusqu'à une fourchette d'acquisition, par exemple. Le prix moyen à 250 000 euros, il faudrait aller au moins
jusqu'à 250 000 euros. Comme l'avait suggéré
Gabriel Attal. Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Dans sa campagne. D'accord.
Tout à fait.
Et ensuite?
Et pas Grégoire.
Et ensuite? Et ensuite?
Ça, c'est déjà une mesure très forte.
Okay.
Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je suis vraiment partisan de la rénovation énergétique, vraiment. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'acteurs et on s'aperçoit que malheureusement, tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et souvent, l'État, un peu comme quand il a mis en place les ERP, accessibilité pour les personnes en situation de handicap, tu vas dans n'importe quel CCI, ce n'est pas accessible. Voilà. Et je pense...
Ou dans les ministères.
Ou dans les ministères. Et donc, je pense qu'en réalité, il y a des moments où il faudrait balayer devant sa porte avant de faire des trucs qui soient trop compliqués. Donc, j'assouplirai un peu, parce que le vrai problème, et ça, j'aimerais bien l'avis de Thomas, on a beaucoup moins de biens. On n'a plus de biens en location. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se retrouve à l'arrêt sur cette partie-là. Donc, la personne, elle reste. Donc, elle décale d'autant son projet d'acquisition, mais elle décale d'autant son projet de déménagement. Donc, je pense que voilà, il y a aussi un sujet.
C'est toute une industrie collatérale.
Je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses, mais tu as des chiffres sur le parc locatif.
Oui, le marché locatif souffre en conséquence des mêmes choses que le marché de la transaction. Ce qu'on voit, nous, on fait beaucoup moins d'entrées cette année par rapport à l'année dernière à périmètre constant. Enfin, on en fait autant, mais on a beaucoup plus d'agences. Donc, et en même temps, on a beaucoup moins de locataires qui partent. Et en fait, quand on les interroge, ils nous disent « mais je ne vais pas poser mon préavis, si je le pose, je me retrouve dans un mois
à la rue,
à sec ». Ouais. Donc, il y a une sclérose. Alors après, pour fluidifier tout ça, j'ai peu d'idées. Mais en effet, il faut...
Si on veut favoriser, c'est exactement ce que disait Daniel tout à l'heure, favoriser la rotation, c'est inciter la possibilité d'acquérir et remettre de l'offre sur le marché pour mettre de l'offre sur le marché pour qu'il y ait plus de logements. En fait, c'est vraiment une quadrature extrêmement simple. Produire du logement... De toute façon, le volume du logement social, c'est 1% de la production de logement. Donc, on ne va pas dire que le logement social et le logement neuf est une variable. Mais c'est un indicateur sur le temps long de ce qu'aurait besoin, en termes de démographie, le besoin de logement. Tu as dit tout à l'heure, par exemple, tu as parlé de la décohabitation, le phénomène de décohabitation. En 20 ans, ça a doublé la demande de logement. Voilà, tout simplement. À démographie constante.
Mais je pense, et c'est un vrai sujet. Aussi, je pense que les entreprises à titre privé, qui payent quand même pas mal d'impôts sur les sociétés, je pense que là aussi, on devrait avoir un dispositif pour aider nos collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs qui sont primo-accédants ou autres n'ont pas forcément le budget, parce qu'il leur manque un peu d'apport. Je pense que si les entreprises, on leur expliquait bien les choses, etc., on pouvait avoir des dispositifs où on pourrait aider nos salariés à acheter, à se loger, avec une fraction d'apport qui serait apportée, qui serait lissée. Ce qui, là aussi, serait... Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il en faut plusieurs. Mais ça en fait partie. Il y a des sociétés qui se lancent depuis quelque temps sur ces sujets-là, et je pense qu'on doit démocratiser ce type de choses, comme les autres modes de financement. C'est-à-dire, pourquoi pas la location-vente, aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, l'acquisition en tant que telle, quand tu gagnes, par exemple, 2 000 euros par mois et que tu dois acheter, et tu sais que tu vas devoir t'emprunter plus de 250 000 euros, à un taux de 4%, comparativement, c'est lourd.
Merci beaucoup pour tous ces échanges. Maintenant, on va faire un petit focus qu'on aime bien, justement, mettre à l'honneur une entreprise. Et là, pour le coup, c'est la société Garantmi, c'est le Lab. C'est tout de suite après ça. Thomas Reynaud, voilà, 5 minutes pour nous présenter Garantmi et échanger sur le concept. Alors, je me rappelle quand tu as démarré, c'était un... concept extrêmement intéressant qui était organisé autour des expatriés, des étudiants étrangers, et ensuite a bien évolué.
Oui, on a lancé Garantmi en octobre 2017 et vous nous aviez reçu en décembre 2017 au congrès de la FNIM sur le plateau de Radio Immo. Je m'en rappelle bien, c'était mon premier plateau radio de ma vie. Garantmi, aujourd'hui, en fait, on est l'allié des professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité de location et de gestion locative. Et on a choisi les professionnels de l'immobilier pour deux raisons. La première, c'est que sur notre marché, qui est celui de la gestion locative, il y a à peu près les deux tiers de la gestion qui se fait de gré à gré. Et donc, il y a quelque chose à faire pour développer l'activité professionnelle, et on essaye d'aider l'agence là-dessus. Et la deuxième raison qui a fait qu'on a choisi de travailler avec les pros, c'est qu'il y a une législation qui est très complexe sur la location, qu'il faut faire respecter pour qu'il y ait de la confiance entre les propriétaires et les locataires, et ça, c'est les pros qui arrivent à le faire le mieux. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On les aide en amont à acquérir plus de mandats de gestion grâce à un produit de garantie loyer impayé qui leur permet de promettre un encaissement du loyer à date fixe au propriétaire. C'est quelque chose qui est hyper important une fois qu'on a pris un emprunt. Et puis en aval, traiter les candidatures locatives de manière accélérée, fluidifiée et sécurisée grâce à un logiciel de sélection et une solution de cautionnement qui nous permet de jouer le rôle de garant. On vient de là, on jouait le rôle de garant pour les expatriés et les étudiants étrangers. Donc, puis petit à petit, on a évolué.
Vous êtes devenu courtier en assurance ?
On a le statut de courtier depuis notre création. Et en effet, donc, derrière nous, il y a des compagnies d'assurance qui vont porter le risque pour nous.
Intéressant. Pourquoi tu as souhaité que Garantmi soit mis à l'honneur ?
Pour deux raisons, tu l'as dit tout à l'heure, j'étais auparavant directeur d'exploitation du groupe Orpi et on a un vrai sujet dans l'immobilier quand tu es en coopérative, c'est que tu as 800 agences qui font de la gestion locative, mais tout le monde le fait à sa manière, comme il l'entend. Et à un moment, quand tu leur expliques que le client final, il veut tranquillement envoyer toutes ses pièces en cliquant sur l'annonce depuis le site internet et qu'il ne veut pas passer à l'agence, c'était au secours. Et quand on s'est rencontrés, ils avaient pitché, ils étaient quatre. Et quand tu dis trois quarts, justement, on avait retenu Thomas et les autres ont été ou rachetés ou ont disparu. Et la première chose qu'on a travaillé, c'était le dépôt de dossiers en ligne. Et lui-même s'en rappelle très bien, on l'avait abordé en Assemblée Générale, et quelle catastrophe, ça a été compliqué les premiers mois. Il fallait voir, c'était beaucoup de pédagogie, beaucoup de contestation, puis une coopérative, ça vit, donc de base, de toute façon, il y a de la contestation, et ça fait partie du jeu. Et c'est vrai, tout de suite, je me suis dit, non mais attends, c'est génial, et on doit aller plus loin. Et à partir de là, en fait, il a développé un produit de GLI, ça s'est mis en place, etc. Et puis, maintenant, il a grandi, et il a beaucoup de lot, et je trouve que c'est quelqu'un qui a, et avec son associé, ils ont toujours travaillé
intelligemment. Alors justement, en chiffres. Aujourd'hui, 40 000, c'est quoi ?
Alors, c'est 7 ans d'exercice, on est 80 personnes. On a couvert plus de 115 000 locataires avec notre produit de cautionnement. Il y en a 50 000 actuellement encore dans les lieux. Et on assure 30 000 appartements en GLI. Donc ça fait 80 000 garanties actives. Ce qui fait qu'en 7 ans, on a réussi à construire un des plus gros acteurs de la garantie loyer impayé en France. Et on y est arrivé en étant très concentré sur les professionnels de l'immobilier, en les aidant. On parle d'une période compliquée pour eux, c'est du coup compliqué pour nous, mais du coup c'est bien parce que ça, en souffrant avec eux, on arrive à faire évoluer nos solutions dans un sens qui est intéressant pour eux. La deuxième chose qui est importante, parce qu'on a parlé de secouer un peu les idées reçues au début, on arrive en fait dans l'immobilier à créer des entreprises innovantes qui arrivent à maturité avec un modèle économique qui est robuste et qui permet de dégager de la rentabilité.
Bien sûr.
Et on est peu d'entreprises à avoir prouvé que c'était possible, et surtout à un stade de taille importante.
Merci beaucoup, c'était intéressant. On peut trouver facilement Garant.me sur internet, www.garant.me.fr. Et je vais demander à ce qu'on mette l'adresse de l'URL du podcast, où on pourra aller d'ailleurs. Une très très belle évolution, ça serait bien qu'on les voit un peu plus souvent sur Radio Immo, mais moi je dis ça, mais je dis rien. En tout cas, c'était un plaisir de te retrouver, toujours aussi vaillant, Thomas, avec toujours des idées géniales. Tu feras le bonjour à Mylène de ma part,
avec
grand, grand plaisir. Merci Xavier Bellevaux.
Merci.
Pour ce troisième opus en direct de l'hippodrome de Longchamp à la REF. Quelle évolution, hein, WeInvest France, qui prend une dimension extraordinaire. Merci pour tout ce que tu fais pour l'immobilier. C'est vraiment une très, très belle réussite. Un immense merci. On a eu l'honneur d'avoir Daniel Dubrac avec nous sur le plateau. Vous êtes venu vraiment très gentiment nous partager votre vision. Surtout, ne changez rien. Et merci encore également de la confiance que vous nous témoignez depuis de longues années maintenant.
Merci. J'ai rencontré un adhérent et des partenaires. Donc, tout va bien.
Voilà. Merci beaucoup. Troisième opus de Débat Immo. C'est pas fini. On se retrouvera bien évidemment dans les jours, les semaines à venir avec notre partenaire WeInvest. Le podcast est disponible comme d'hab sur les agrégateurs de podcasts ainsi que sur l'application de Radio Immo. On se retrouve dans quelques instants.
Débat Immo, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.